Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 5, chapitre 5. Dispute entre Eck et Luther, la primauté de Rome, elle est de droit humain, égalité des évêques, qui est le fondement, Pierre ou Jésus-Christ. Eck insinue que Luther est hussite, Luther se déclare pour les doctrines de Huss, agitation dans l'auditoire, plaisanterie du docteur Eck, le fou de cour, Luther à la messe, parole du duc, le purgatoire, les indulgences, etc. Fin de la dispute. Ce fut le 4 juillet que le combat commença entre Eck et Luther. Tout annonçait qu'il serait plus violent et plus décisif que celui qui venait de finir. Les deux combattants s'avançaient dans l'arène, décidés à ne déposer les armes que lorsque la victoire se serait déclarée en faveur de l'un ou de l'autre. Tout le monde était dans la plus vive attente, car la primauté du pape devait être le sujet débattu. Le christianisme a deux grands adversaires, le hiérarchisme et le rationalisme. C'est le rationalisme, dans son application à la doctrine des forces de l'homme, qui avait été attaqué par la Réformation dans la première partie de la dispute de Leipzig. C'était le hiérarchisme, considéré dans ce qui est à la fois et le fait et la base, la doctrine du pape, qui devait être combattue dans la seconde. D'un côté paraissait Eck, défenseur de la religion établie, et se glorifiant des disputes qu'il avait soutenues comme un général d'armée se vante de ses batailles. De l'autre s'avançait Luther, qui semblait devoir recueillir de cette lutte les persécutions et l'ignominie, mais qui se présentait avec une bonne conscience, une ferme résolution de tout sacrifier à la cause de la vérité et une attente pleine de foi en Dieu et dans les délivrances qu'il accorde. À 7 heures du matin, les deux antagonistes étaient dans leur chair, entourés d'une assemblée nombreuse et attentive. Luther se leva et, usant d'une précaution nécessaire, il dit avec modestie: « Au nom du Seigneur, Amen, je déclare que le respect que je porte au souverain pontife m'aurait engagé à ne point soutenir cette dispute si l'excellent docteur Eck ne m'y eût entraîné. » Eck: « En ton nom, doux Jésus, avant de descendre dans l'arène, je proteste en votre présence, magnifique Seigneur, que tout ce que je dirai est soumis au jugement du premier de tous les sièges et du maître qui y est assis. » Après un moment de silence, Eck continua. « Il y a dans l'Église de Dieu une primauté qui vient de Christ lui-même. L'Église militante a été établie à l'image de l'Église triomphante. Or, celle-ci est une monarchie où tout s'élève hiérarchiquement jusqu'au seul chef qui est Dieu. C'est pourquoi Christ a établi un tel ordre sur la terre. Quel monstre serait l'Église si elle était sans tête ?» Luther se tournant vers l'assemblée. Quand Monsieur le docteur déclare qu'il faut que l'Église universelle ait un chef, il fait bien. S'il est quelqu'un parmi nous qui prétende le contraire, qu'il se lève. Quant à moi, cela ne me regarde pas. » Eck: « Si l'Église militante n'a jamais été sans monarque, je voudrais bien savoir quel il peut être si ce n'est le pontife de Rome. » Luther regarde au ciel et reprend avec autorité. « Le chef de l'Église militante est Christ lui-même, et non un homme. Je le crois en vertu du témoignage de Dieu. Il faut, dit l'Écriture, que Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 25. « N'écoutons donc pas ceux qui relèguent Christ dans l'Église triomphante du ciel. Son règne est un règne de foi. Nous ne pouvons voir notre chef, et cependant nous l'avons. » Eck, ne se tenant pas pour battu, ayant recours à d'autres arguments, reprit « C'est de Rome, comme le dit saint Cyprien, que l'unité sacerdotale est provenue. » Luther: « Pour l'Église d'Occident, je l'accorde, mais cette Église romaine elle-même n'est-elle pas issue de celle de Jérusalem? C'est celle-ci proprement qui est la mère et la nourricière de toutes les Églises. » Eck: Saint Jérôme déclare que si une puissance extraordinaire et supérieure à toutes les autres n'est pas donnée au pape, il y aura dans les églises autant de schismes que de pontifes. Luther: « Donner, dit-il, c'est-à-dire que si tous les autres fidèles y consentaient, Cette puissance pourrait être attribuée de droit humain au premier pontife. Et moi non plus, je ne nie pas que si tous les fidèles du monde entier tombaient d'accord de reconnaître comme premier et souverain pontife l'évêque de Rome, ou celui de Paris, ou celui de Magdebourg, il faudrait le reconnaître pour tel, à cause du respect que l'on devrait à cet accord de toute l'Église. Mais cela ne s'est jamais vu, et jamais cela ne se verra. De nos jours même, l'Église grecque ne refuse-t-elle pas à Rome son assentiment ? Luther était tout prêt alors à reconnaître le pape comme le premier magistrat de l'Église élu librement par elle, mais il niait qu'il fût établi de Dieu. Ce ne fut que plus tard qu'il nia que l'on dût en aucune manière se soumettre à lui. C'est là un pas que la dispute de Leipzig lui fit faire. Mais Eck s'était avancé sur un terrain que Luther connaissait mieux que lui. Eck en appelle au père, il le battra par les pères. Que le sens que j'expose, dit-il, soit celui de saint Jérôme, c'est ce que je prouve par l'épître de saint Jérôme lui-même à Evagrius. Tout évêque, dit-il, soit à Rome, soit à Eugubium, soit à Constantinople, soit à Régium, soit à Alexandrie, soit à Tanis, a le même mérite et le même sacerdoce. La puissance des richesses, l'humiliation de la pauvreté, placent seuls les évêques ou plus haut ou plus bas. Des écrits des pères, Luther passa au décret des conciles qui ne voit dans l'évêque de Rome que le premier entre ses pères. Nous lisons, dit-il, dans le décret du concile d'Afrique, que l'évêque du premier siège ne soit appelé ni prince des pontifes, ni souverain pontife, ni de quelque autre nom de ce genre, mais seulement évêque du premier siège. Si la monarchie de l'évêque de Rome était de droit divin, continue Luther, ne serait-ce pas là une parole hérétique ? Eck répond par une de ces distinctions subtiles qui lui sont si familières. L'évêque de Rome, si vous le voulez, n'est pas évêque universel, mais l'évêque de l'Église universelle. Luther. Je veux bien me taire sur cette réponse, que nos auditeurs en jugent même. Certes, dit-il ensuite, voilà une glose digne d'un théologien et bien propre à satisfaire un disputeur avide de gloire. Ce n'est pas pour rien que je suis resté à grands frais à Leipzig, puisque j'y ai appris que le pape n'est pas, il est vrai, l'évêque universel, mais qu'il est l'évêque de l'Église universelle. Eck. Eh bien, j'en viens à l'essentiel. Le vénérable docteur me demande de prouver que la primauté de l'Église de Rome est de droit divin. Je le prouve par ces paroles de Christ, « Tu es pierre, et sur cette pierre j'établirai mon Église. » Saint Augustin, dans une de ses épîtres, a ainsi exposé le sens de ce passage. « Tu es pierre, et sur cette pierre, c'est-à-dire sur pierre, j'édifierai mon Église. » Il est vrai que ce même Augustin a exposé ailleurs que par cette pierre il fallait entendre Christ lui-même, mais il n'a point rétracté sa première exposition. Luther. Si le révérend docteur veut m'attaquer, qu'il concilie d'abord lui-même ces paroles contraires de saint Augustin, car il est certain que saint Augustin a dit très souvent que la pierre était Christ et peut-être à peine une fois que c'était Pierre lui-même. Mais quand même saint Augustin et tous les pères diraient que l'apôtre est la pierre dont Christ parle, moi seul je leur résisterai, appuyé sur l'autorité de la sainte Écriture, c'est-à-dire sur le droit divin, car il est écrit « Personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Pierre lui-même appelle Christ « la pierre angulaire et vive sur laquelle nous sommes édifiés » pour être une maison en esprit. 1 Épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Eck. Je m'étonne de l'humilité et de la modestie avec lesquelles le révérend docteur promet de s'opposer seul à tant d'illustres pères, et prétend savoir plus que les souverains pontifes, les conciles, les docteurs et les universités. Il serait étonnant, sans doute, que Dieu eût caché la vérité à tant de martyrs, jusqu'à la venue du révérend père. Luther. Les pères ne sont pas contre moi. Saint Augustin, saint Ambroise, les plus excellents docteurs, parlent comme je parle. Super isto articulo fidei fundata est ecclesia, c'est-à-dire l'Église, est fondée sur cet article de foi, dit saint Ambroise, en expliquant ce qu'il faut entendre par la pierre sur laquelle l'Église repose. Que mon adversaire retienne donc sa langue, s'exprimer comme il le fait, c'est attiser la haine et non discuter en vrai docteur. Eck ne s'était pas attendu à ce que son adversaire possédât tant de connaissances, et sut se tirer du labyrinthe où il cherchait à l'égarer. « Le révérend docteur, dit-il, est descendu dans l'arène après avoir bien préparé son sujet. Que vos seigneuries m'excusent si je ne leur présente pas des recherches aussi exactes. Je suis venu pour disputer et non pour faire un livre. » Eck était étonné, mais il n'était pas battu. N'ayant plus de raison à donner, il eut recours à un artifice méprisable, odieux, qui devait sinon vaincre son adversaire, du moins le jeter dans un grand embarras. Si l'accusation d'être un bohémien, un hérétique, un hussite plane sur Luther, il est vaincu, car les bohémiens sont détestés dans l'Église. C'est à cette ruse de guerre que le docteur d'Ingolstadt a recours. Dès les temps primitifs, dit-il, il a été reconnu par tous les bons chrétiens que l'Église de Rome tient sa primauté de Christ lui-même et non du droit humain. Je dois avouer cependant que les bohémiens, en défendant avec opiniâtreté leurs erreurs, ont attaqué cette doctrine. Je demande pardon au vénérable père si je suis ennemi des bohémiens parce qu'ils sont ennemis de l'Église et si la dispute actuelle m'a rappelé ces hérétiques, car, d'après mon faible jugement, les conclusions que le docteur a prises favorisent tout à fait ces erreurs. On m'assure même que les Hussites s'en glorifient hautement. Eck avait bien calculé. Tous ses partisans accueillirent avec grande faveur cette perfide insinuation. Il y eut un mouvement de joie dans l'auditoire. Ces injures, dit plus tard le réformateur, les chatouillaient beaucoup plus agréablement que la dispute elle-même. Luther. Je n'aime et je n'aimerai jamais un schisme. Puisque de leur propre autorité, les bohémiens se séparent de notre unité, ils font mal. Quand même le droit divin prononcerait en faveur de leur doctrine. Car le droit divin suprême, c'est la charité et l'unité de l'esprit. C'était le 5 juillet, dans la séance du matin, que Luther avait dit ces paroles. On se sépara peu après, l'heure du dîner étant arrivée. Il est probable que quelqu'un des amis, ou peut-être des adversaires du docteur, lui fit sentir qu'il avait été bien loin en condamnant ainsi les chrétiens de la Bohême. N'ont-ils pas en effet maintenu des doctrines que Luther soutient à cette heure ? Aussi l'assemblée s'étant de nouveau réunie à 2 heures après-midi, Luther prit la parole et dit avec fermeté. Parmi les articles de Jean Hus et des bohémiens, il en est de très chrétiens. C'est une chose certaine, tel est celui-ci, qu'il n'y a qu'une seule Église universelle, et cette autre, qu'il n'est pas nécessaire au salut de croire l'Église romaine supérieure aux autres. Que ce soit Wycliffe, que ce soit Hus qui l'ait dit, peu m'importe, c'est la vérité. Cette déclaration de Luther produisit une sensation immense sur l'auditoire. Hus, Wycliffe, ces noms abhorrés, prononcés avec éloge par un moine au sein d'une assemblée catholique, une rumeur presque générale se fit entendre. Le duc Georges lui-même fut tout effrayé. Il lui sembla voir élevé dans la Saxe cet étendard de guerre civile qui avait si longtemps désolé les états de ses ancêtres maternels. Ne pouvant contenir son émotion, il s'écria à haute voix et en sorte que toute l'assemblée put l'entendre « C'est la rage qui le pousse !» Puis, secouant la tête, il appuya ses mains sur ses côtés. Tout l'auditoire était dans une vive agitation. On se levait, chacun parlait avec son voisin. Ceux qui avaient cédé au sommeil se réveillaient. Les adversaires triomphaient. Les amis de Luther étaient dans un grand embarras. Plusieurs personnes, qui jusqu'alors l'avaient tendu avec plaisir, commencèrent à douter de son orthodoxie. L'impression de cette parole ne s'affaiblit jamais dans l'esprit de Georges. Dès ce moment, il vit le réformateur de mauvais œil et devint son ennemi. Pour Luther, il ne se laissa pas intimider par cette explosion de murmures. Grégoire de Nazianze, continua-t-il tranquillement, Basile le Grand, Épiphane, Chrysostome, un nombre immense d'autres évêques grecs sont sauvés, et pourtant ils n'ont pas cru que l'Église de Rome fût supérieure aux autres églises. Il n'est pas au pouvoir des pontifes de Rome de faire de nouveaux articles de foi. Il n'y a pour le chrétien fidèle d'autre autorité que la Sainte Écriture. Elle est seule le droit divin. Je supplie, monsieur le docteur, d'accorder que les pontifes de Rome ont été des hommes et de vouloir bien ne pas en faire des dieux. Eck eut recours alors à une de ces plaisanteries qui donnent gratuitement à celui qui les fait un petit air de triomphe. Le révérend père qui n'entend pas bien l'art de la cuisine, dit-il, fait un mauvais mélange des saints et des hérétiques grecs, en sorte que le parfum de sainteté des uns empêche de sentir le poison des autres. Luther interrompant Eck avec vivacité. L'excellent docteur parle avec impudence. Il n'y a pour moi point de communion entre Christ et Bélial. » Telles étaient les discussions qui occupaient les deux docteurs. L'assemblée était attentive, la tension baissait pourtant quelquefois, et les auditeurs aimaient assez qu'un incident vînt les égayer et les distraire. Souvent, aux choses les plus graves, se mêlent les plus comiques. C'est ce qui arriva à Leipzig. Le duc Georges, selon la coutume du temps, avait un fou de cour. Quelques plaisants dirent à celui-ci « Luther soutient qu'un fou de cour peut se marier. Eck défend la proposition contraire. » Là-dessus, le fou prit Eck en grande aversion, et chaque fois qu'il entrait dans la salle à la suite du duc, il regardait le théologien d'un air menaçant. Le chancelier d'Ingolstadt, ne dédaignant pas de descendre jusqu'à la plaisanterie, ferma un jour un œil, le fou était borgne, et de l'autre se mit à regarder de travers le petit personnage. Celui-ci, hors de lui, accabla d'injures le grave docteur. Toute l'assemblée, dit Pfeiffer, se mit à rire, et ce divertissement diminua un peu la tension extrême des esprits. En même temps, se passaient dans la ville et dans les églises des scènes qui montraient l'horreur que les assertions hardies de Luther inspiraient aux partisans de Rome. On criait partout au scandale dans les couvents arrachés au pape. Un dimanche, le docteur de Wittenberg s'était rendu dans l'église des Dominicains avant la grand-messe. Il ne s'y trouvait que quelques moines qui disaient des messes basses sur deux petits autels. À peine apprend-on dans le cloître que l'hérétique Luther est dans l'église, que les moines accourent en toute hâte, saisissent l'ostensoir, le portent dans le tabernacle, l'enferment et le gardent avec soin, de peur que le très saint sacrement ne soit profané par les regards hérétiques de l'Augustin de Wittenberg. En même temps, ceux qui lisaient la messe ramassent avec précipitation tout ce qui sert à la célébrer. Ils abandonnent l'autel, traversent l'église et s'enfuient dans la sacristie, comme si le diable eût été derrière eux, dit un historien. On s'entretenait partout du sujet de la dispute. Dans les hôtelleries, à l'université, à la cour, chacun en disait son sentiment. Le duc Georges, quelle que fût son irritation, ne refusait pas obstinément de se laisser convaincre. Un jour qu'il avait Eck et Luther à dîner, il interrompit leur conversation en disant « Que le pape soit pape de droit divin ou de droit humain, toujours est-il qu'il est pape ». Luther fut très satisfait de ces paroles. Le prince, dit-il, ne les eût jamais prononcées si mes arguments ne l'avaient pas frappé. On avait disputé pendant 5 jours sur la primauté du pape. Le 8 juillet, on en vint à la doctrine du purgatoire. La dispute dura un peu plus de 2 jours. Luther admettait encore l'existence du purgatoire, mais il niait que cette doctrine se trouvât enseignée dans l'Écriture et dans les Pères de la manière dont les scolastiques et son adversaire le prétendaient. « Notre docteur Eck, dit-il en faisant allusion à l'esprit superficiel de son adversaire, a aujourd'hui couru sur la Sainte Écriture sans presque la toucher, comme une araignée sur l'eau. » Le 11 juillet, on en vint aux indulgences. « Ce ne fut qu'un jeu et une dispute pour rire, dit Luther. Les indulgences tombèrent tout à plat, et Eck fut presque en tout de mon avis. » Eck lui-même dit « Si je n'avais pas disputé avec le docteur Martin sur la primauté du pape, je pourrais presque être d'accord avec lui. » La discussion roula ensuite sur la repentance, l'absolution des prêtres, les satisfactions. Eck, comme à son ordinaire, cita les scolastiques, les dominicains, les canons du pape. Luther termina la dispute par ces mots. Le révérend docteur s'enfuit de devant les saintes écritures comme le diable de devant la croix. Quant à moi, sauf le respect du haut père, je préfère l'autorité de l'écriture et c'est elle que je recommande à nos juges. Ici finit la dispute d'Eck et de Luther. Karlstadt et le docteur d'Ingolstadt discutèrent encore pendant 2 jours sur les mérites de l'homme dans les bonnes œuvres. Le 16 juillet, l'action se termina, après avoir duré 20 jours, par un discours du recteur de Leipzig. À peine eut-il achevé qu'une musique éclatante se fit entendre et la solennité fut conclue par le chant du Te Deum. Mais pendant ce chant solennel, les esprits n'étaient déjà plus ce qu'ils avaient été pendant le Veni Spiritus. Déjà, les pressentiments de plusieurs semblaient s'être réalisés. Les coups que les champions des deux doctrines s'étaient portés avaient fait à la papauté une large blessure. Thank you. Livre 5, chapitre 6. Intérêt des laïcs à la dispute. Opinion de Luther. Aveu du docteur Eck. Vanterie des Romains. Effet de la dispute. Polyandre. Cellarius. Le jeune prince d'Anhalt. Les étudiants de Leipzig. Crucigère. Vocation de Mélenchon. Affranchissement de Luther. Ces disputes théologiques, auxquelles maintenant les gens du monde ne voudraient pas consacrer quelques courts instants, avaient été suivies et écoutées pendant 20 jours avec beaucoup d'attention. Laïcs, chevaliers, princes avaient montré un intérêt soutenu. Le duc Barnim de Poméranie et le duc Georges se firent surtout remarquer par leur assiduité, mais quelques-uns des théologiens de Leipzig, amis du docteur Eck, dormaient au contraire tout doucement, dit un témoin oculaire. Il fallait même les réveiller quand la dispute était finie pour qu'ils ne manquassent pas leur dîner. Luther quitta le premier Leipzig. Karlstadt partit ensuite. Eck y resta quelques jours après leur départ. Il n'y eut point de décision rendue sur la dispute. Chacun en parla à sa manière. « Il y a à Leipzig, dit Luther, perte de temps et non-recherche de la vérité. Depuis 2 ans que nous examinons les doctrines des adversaires, nous avons compté tous leurs os. » Eck, au contraire, a à peine effleuré la surface, mais il a crié dans une heure plus que nous dans 2 longues années. Eck, écrivant en particulier à ses amis, avouait à divers égards sa défaite, mais il ne manquait pas de raison pour l'expliquer. « Les Wittembergeois m'ont vaincu sur plusieurs points », écrivit-il le 24 juillet à Ostraten. « Premièrement parce qu'ils ont apporté avec eux des livres. » Secondement, parce qu'on leur écrivait la dispute et qu'ils l'examinaient chez eux à loisir. Troisièmement, parce qu'ils étaient plusieurs, 2 docteurs, Karlstadt et Luther, Lange, vicaire des Augustins, 2 licenciés, Amsdorff et un très arrogant neveu de Röchlin, Mélenchon. 3 docteurs en droit et plusieurs maîtres S.A.R., tous aidés à la dispute, soit en public, soit en particulier. Mais moi, je me présentais seul, n'ayant que l'équité pour compagne. Eck oubliait Emser, l'évêque et tous les docteurs de Leipzig. Si de tels aveux échappaient à Eck dans une correspondance familière, il en était tout autrement en public. Le docteur d'Ingolstadt et les théologiens de Leipzig faisaient grand bruit de ce qu'ils appelaient leur victoire. Ils répandaient partout de faux rapports. Toutes les langues du parti répétaient leurs paroles suffisantes. « Eck triomphe partout », écrivait Luther. Mais on se disputait les lauriers dans le camp de Rome. « Si nous n'eussions secouru Eck, disaient ceux de Leipzig, l'illustre docteur eût été renversé. « Les théologiens de Leipzig sont de bonnes gens, disait de son côté le docteur d'Ingolstadt, mais j'ai trop espéré d'eux. Moi seul, j'ai tout fait. » « Tu vois, dit Luther à Spalatin, qu'ils chantent une nouvelle Iliade et une nouvelle Énéide. Ils ont la bonté de faire de moi un Hector ou un Turnus, tandis que Eck est pour eux Achille ou Énée. Le seul doute qu'il leur reste, c'est de savoir si la victoire a été remportée par les armées d'Eck ou par celle de Leipzig. Tout ce que je puis dire pour éclaircir la chose, c'est que le docteur Eck n'a cessé de crier et que ceux de Leipzig n'ont cessé de se taire. Eck a triomphé aux yeux de ceux qui ne comprennent pas l'affaire et qui ont vieilli sur les scolastiques, dit l'élégant, le spirituel, le sage Mosellanus. Mais Luther et Karlstadt sont demeurés vainqueurs pour tous ceux qui ont de la science, de l'intelligence et de la modestie. La dispute de Leipzig ne devait pourtant pas s'évanouir en fumée. Toute œuvre faite avec dévouement porte ses fruits. Les paroles de Luther avaient pénétré avec une puissance irrésistible dans l'esprit de ses auditeurs. Plusieurs de ceux qui, chaque jour, avaient rempli la salle du château, furent subjugués par la vérité. Ce fut même au milieu de ses adversaires les plus prononcés qu'elle fit surtout des conquêtes. Le secrétaire du docteur Eck, son familier, son disciple, Polyandre, fut gagné à la réforme, et dès l'an 1522, il prêcha publiquement l'évangile à Leipzig. Jean Cellarius, professeur d'hébreu, l'un des hommes les plus opposés à la réforme, saisi par les paroles du puissant docteur, commença à sonder davantage la Sainte Écriture. Bientôt, il quitta sa place et, plein d'humilité, vint étudier à Wittenberg, au pied de Luther. Il fut plus tard pasteur à Francfort et à Dresde. Parmi ceux qui avaient pris place sur les sièges réservés à la cour et qui entouraient le duc Georges était un jeune prince âgé de 12 ans. issu d'une famille célèbre par ses combats contre les Sarrasins, Georges d'Anhalt. Il étudiait alors à Leipzig sous la direction d'un gouverneur. Une grande ardeur pour la science et un vif attrait pour la vérité distinguaient déjà cet illustre jeune homme. Souvent, on l'entendait répéter cette sentence de Salomon « La parole de mensonge ne convient pas au prince ». La dispute de Leipzig fit naître en cet enfant des réflexions sérieuses et un penchant décidé pour Luther. Quelque temps après, on lui offrit un évêché. Ses frères, tous ses parents, le sollicitaient de l'accepter, voulant le pousser aux hautes dignités de l'Église. Il fut inébranlable dans son refus. Sa pieuse mère, amie secrète de Luther, étant morte, il se trouva en possession de tous les écrits du réformateur. Il présentait à Dieu de constantes et ferventes prières, le suppliant de fléchir son cœur à la vérité, et souvent, dans la solitude de son cabinet, il s'écriait avec larmes « Fais à ton serviteur selon ta miséricorde et enseigne-moi tes ordonnances ». Ses prières furent entendues. Convaincu, entraîné, il se rangea sans crainte du côté de l'Évangile. En vain, ses tuteurs, et surtout le duc Georges, l'obsédèrent-ils de prières et de représentations. Il demeura inflexible, et Georges, à demi convaincu par les raisons de son pupille, s'écria « Je ne puis rien lui répondre, mais je resterai pourtant dans mon église, car dresser un vieux chien n'est pas chose possible. » Nous retrouverons plus tard ce prince si aimable, l'un des beaux caractères de la Réformation, qui prêcha lui-même à ses sujets la parole de vie et auquel on a appliqué ce mot de Dion sur l'empereur Marc Antonin. Il fut durant toute sa vie semblable à lui-même, il était un homme de bien et il n'eut aucune feinte en lui. Ce fut surtout par les étudiants que les paroles de Luther furent reçues avec enthousiasme. Ils sentirent la différence qu'il y avait entre l'esprit et la vie du docteur de Wittenberg et les distinctions sophistiques, les spéculations vaines du chancelier d'Ingolstadt. Ils voyaient Luther s'appuyant sur la parole de Dieu. Ils voyaient le docteur Eck ne se fondant que sur les traditions des hommes. L'effet fut prompt. Les auditoires de l'université de Leipzig se vidèrent presque après la dispute. Une circonstance y contribua. La peste semblait s'y déclarer. Mais il était bien d'autres universités, Erfurt, Ingolstadt par exemple, où les étudiants auraient pu se rendre. La force de la vérité les attira à Wittenberg. Le nombre des étudiants y doubla. Parmi ceux qui se transportèrent de l'une de ces universités à l'autre, on remarqua un jeune homme de 16 ans, d'un caractère mélancolique, parlant peu et qui, souvent au milieu des conversations et des jeux de ses condisciples, semblait absorbé dans ses propres pensées. Ses parents lui avaient cru d'abord un esprit faible, mais bientôt ils le virent si prompt à apprendre, si continuellement occupé de ses études, et qu'ils conçurent de lui de grandes espérances. Sa droiture, sa candeur, sa modestie et sa piété le faisaient aimer de tous, et Mosellanus le signala comme un modèle à toute l'université. Il s'appelait Gaspard Crucigère et était originaire de Leipzig. Le nouvel étudiant de Wittenberg fut plus tard l'ami de Mélenchon et l'aide de Luther dans la traduction de la Bible. La dispute de Leipzig eut des effets plus grands encore. Ce fut là que le théologien de la Réformation reçut son appel. Modeste et silencieux, Mélenchon avait assisté à la discussion sans presque y prendre part. Il ne s'était occupé jusqu'alors que de littérature. La conférence lui donna une impulsion nouvelle et lança l'éloquent professeur dans la théologie. Dès lors, il fit plier la hauteur de sa science devant la parole de Dieu. Il reçut la vérité évangélique avec la simplicité d'un enfant. Ses auditeurs l'entendirent exposer les doctrines du salut avec une grâce et une clarté qui ravissaient tout le monde. Il avançait avec courage dans cette carrière nouvelle pour lui, car, disait-il, Christ ne manquera pas aux siens. Dès ce moment, les deux amis marchèrent ensemble, combattant pour la liberté et la vérité, l'un avec la force d'un saint Paul, l'autre avec la douceur d'un saint Jean. Luther a admirablement exprimé la différence de leur vocation. « Je suis né, dit-il, pour me mettre aux prises sur le champ de bataille avec les partis et avec les démons. C'est pourquoi mes écrits sont pleins de guerre et de tempêtes. Il faut que je déracine les souches et les troncs, que j'enlève les épines et les broussailles, que je comble les flaques et les bourbiers. Je suis le grossier bûcheron qui doit préparer les voies et égaliser le chemin. mais le maître S.R. Philippe s'avance tout tranquillement et tout doucement. Il cultive et il plante, il sème et il arrose joyeusement selon les dons que Dieu lui a faits d'une main si libérale. Si Mélenchon, le tranquille semeur, fut appelé à l'œuvre par la dispute de Leipzig, Luther, le vigoureux bûcheron, sentit ses bras fortifiés par elle et son courage s'enflamma davantage encore. L'effet le plus puissant de cette discussion s'accomplit en Luther lui-même. « La théologie scolastique, dit-il, s'écroula alors entièrement à mes yeux sous la présidence triomphante du docteur Eck. Le voile que l'école et l'église avaient tendu ensemble devant le sanctuaire fut déchiré pour le réformateur du haut jusqu'en bas. Contraint à des recherches nouvelles, il parvint à des découvertes inattendues. Il vit avec autant d'étonnement que d'indignation le mal dans toute sa grandeur. Sondant les annales de l'Église, il découvrit que la suprématie de Rome n'avait d'autre origine que l'ambition d'un côté et une crédule ignorance de l'autre. Au point de vue étroit sous lequel il avait jusqu'alors envisagé l'Église, en succéda un plus large et plus profond. Il reconnut dans les chrétiens de la Grèce et de l'Orient de véritables membres de l'Église catholique et, au lieu d'un chef visible assis au bord du Tibre, il adora comme chef unique du peuple de Dieu ce Rédempteur invisible, éternel, qui, selon sa promesse, est tous les jours au milieu de tous les peuples de la terre avec ceux qui croient en son nom. L'Église latine ne fut plus pour Luther l'Église universelle. Il vit tomber les étroites barrières de Rome et poussa un cri de joie en découvrant bien au-delà le glorieux domaine de Jésus-Christ. Dès lors, il comprit qu'il pouvait être membre de l'Église de Christ sans l'être de l'Église du pape. Mais les écrits de Jean Hus firent surtout sur lui une forte impression. Il y retrouva, à sa grande surprise, la doctrine de saint Paul et de saint Augustin, cette doctrine à laquelle il n'était arrivé lui-même qu'après tant de combats. « J'ai cru, j'ai enseigné sans le savoir, dit-il, toutes les doctrines de Jean Hus, Stupitz de même. Bref, sans nous en douter, nous sommes tous des Hussites. Saint Paul, saint Augustin, eux-mêmes le sont. Je suis confondu et ne sais que penser. Oh, quel terrible jugement de Dieu les hommes n'ont-ils pas mérité, puisque la vérité évangélique, dévoilée et publiée depuis plus d'un siècle, a été condamnée, brûlée, étouffée. Malheur, malheur à la terre !» Luther se détacha de la papauté. Il conçut alors pour elle une aversion prononcée et une sainte indignation. Et tous les témoins qui, dans chaque siècle, s'étaient élevés contre Rome, vinrent tour à tour devant lui déposer contre elle et lui révéler quelques abus ou quelques erreurs. « Ô ténèbres !» s'écriait-il. On ne lui permit pas de se taire sur ces tristes découvertes. L'orgueil de ses adversaires, leur prétendu triomphe, les efforts qu'il faisait pour éteindre la lumière, décidèrent son âme. Il avança dans la voie où Dieu le menait, sans s'inquiéter du but où elle pouvait le conduire. Luther a signalé ce moment comme celui de son affranchissement du joug papal. « Apprenez de moi, dit-il, combien il est difficile de se débarrasser d'erreurs que le monde entier confirme par son exemple et qui, par une longue habitude, sont devenues pour nous une seconde nature. Il y avait alors 7 ans que je lisais et que j'expliquais publiquement avec un grand zèle la Sainte Écriture, en sorte que je la savais presque tout entière par cœur. J'avais aussi toutes les prémices de la connaissance et de la foi en mon Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire je savais que nous ne sommes pas justifiés et sauvés par nos œuvres, mais par la foi en Christ. Et même, je maintenais ouvertement que ce n'est pas par droit divin que le pape est le chef de l'Église chrétienne. Et pourtant, je ne pouvais pas voir ce qui en découle, savoir que nécessairement et certainement, le pape et du diable. Car ce qui n'est pas de Dieu doit nécessairement être du diable. Luther ajoute plus loin, « Je ne me laisse plus aller à mon indignation contre ceux qui sont encore attachés au pape, puisque moi, qui depuis tant d'années lisais avec tant de soin les Saintes Écritures, je tenais encore au papisme avec tant d'opiniâtreté. » Telles furent les suites véritables de la dispute de Leipzig, bien plus importante que la dispute elle-même. Elle fut semblable à ses premiers succès qui exercent une armée et qui enflamment son courage. »